Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cathy commence la musique à travers le piano dès l'âge de 8 ans. À l'adolescence, elle compose de nombreuses musiques au piano et poèmes variés. Elle découvre la musicothérapie à l'âge de 17 ans, faisant quelques détours par la psychologie et l'animation socioculturelle, avant de se former dans l'accompagnement par le son et la musique, ainsi qu'en pédagogie musicale. Au-delà de son parcours de musicienne, Cathy est aussi aventurière et voyageuse. Je l'ai rencontrée dans l'aventure de la caravane amoureuse en Himalaya. Rencontre avec Cathy.
Bonjour Alexandre, déjà. Comment je me présenterais? Comme une artiste. A priori, c'est comme ça que j'aurais envie de commencer, de cœur, voilà. Je suis musicienne, je travaille avec les enfants, les adultes, avec le son et la musique, dans l'accompagnement, dans la pédagogie, et dans la rencontre de l'autre à travers la musique et le son. Voilà, c'est ça qui m'anime le plus dans le travail, on va dire.
Comment tu en es venue à la musique? Si on revient un peu dans ton parcours, ton itinéraire personnel, dans ton enfance, qu'est-ce qui t'a amené à devenir musicienne?
Eh bien écoute, j'avais, dès l'âge de 4 ans, je voulais faire du piano. Je voyais les pianistes à la télé chez mes parents et je voulais faire du piano. J'ai attendu l'âge de 8 ans et puis là j'ai suivi un parcours académique de piano classique. Voilà. Et ça a été mon instrument. Que j'ai vraiment pratiqué. Et puis après, à l'adolescence, j'ai découvert que je pouvais créer ma musique. Donc là, ça a été beaucoup plus difficile de continuer à suivre les orientations des profs. J'ai un peu lâché. Et puis j'ai créé mes compos, mes musiques. Et c'est tout un univers personnel, artistique, vibratoire qui s'est ouvert. Les poésies en même temps. Enfin, c'est tout mon univers artistique qui s'est ouvert à l'adolescence.
Issue d'une famille musicienne et artiste ou pas du tout?
Pas du tout musicienne, en tout cas pas mes parents. Du côté de mon père, il y a le chant qui était présent, mais voilà, pas plus que ça. Donc c'est tout.
Donc tu fais partie de ceux qui, déjà très jeunes, ont trouvé un cap et l'ont tenu?
Bah oui, moi j'avais cette envie, quoi, tu vois, ce désir fort quand tu flashes sur un instrument, ce qui arrive à plein d'enfants, et puis que tu te passionnes pour, et puis t'y vas, quoi. T'y vas, et c'est là où... c'est vrai que l'académisme, c'était pas... Au départ, je m'en rendais pas trop compte, je suis assez vite rentrée dans le moule, en fait, de cet académisme-là. Puis c'est vraiment... Et je remercie, parce que ça m'a apporté aussi. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes tous les autres possibles... C'est pour ça d'ailleurs qu'après je suis allée vers d'autres façons de transmettre la musique et de partager la musique, parce que c'est des cadres très enfermants quand même.
Mais parle-moi de cette évolution, donc côté académique, où là tu es étudiante, et quand tu termines tes études, vers quoi tu te diriges? Tu as continué à faire du piano ou tu as touché à d'autres instruments, et comment est-ce que tu as réussi à te construire dans ta vie d'adulte à travers la musique?
En fait, en terminale, on réfléchit à son orientation, même si c'est parfois compliqué. Moi, je savais que je voulais être dans l'aide. Alors l'aide, ça peut vouloir dire plein de choses. La relation d'aide, ça c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur. Je ne savais pas comment. J'étais intéressée par la médecine, j'étais intéressée par la psycho, j'étais intéressée par les arts, évidemment. Et avec ça, je ne savais pas. Et puis, c'est une rencontre, je ne sais pas. C'est fou, mais je ne sais plus comment vraiment, mais j'ai rencontré une fille qui faisait une formation de musicothérapie. Et là, j'ai fait... Oh, je me suis dit, waouh, ça réunit vraiment... pour moi, ça réunissait tout ce qui m'intéressait, tout ce qui m'enthousiasmait. Donc je me suis dit, c'est ça, je veux faire ça. Et puis par sécurité, en répondant un peu, on va dire, aux conseils de mes parents, Je suis d'abord partie en psycho, parce qu'à l'époque, tout ce qui était musicothérapie, c'était vraiment... c'était pas du tout comme maintenant, quoi. C'était vraiment des spécialités qui se faisaient par des gens déjà médecins ou infirmiers, éducateurs. Et vivre de la musicothérapie, ça semblait très compliqué. Donc je suis partie en psycho, j'étais très déçue de la façon dont c'était enseigné. Mais comme j'étais une bosseuse et que, on va dire que les études me faisaient pas peur et que j'avais une autonomie par rapport à ça, j'ai fait. J'ai arrêté, je suis partie en animation. Je suis allée au bout de l'animation, je suis repartie en psycho, voir ailleurs si c'était mieux. Et au final, au bout de quelques années, j'ai enfin fait une formation dans le domaine du son, de l'accompagnement, de la pédagogie. Un petit peu tout. Moi, j'avais envie d'ouvrir très large. J'avais envie que ça aille du nouveau-né jusqu'à la personne en fin de vie, personne handicapée. J'avais envie de voir tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qu'on pouvait faire avec le son, la musique et tous ces publics. Donc j'ai ouvert très large avec une formation qui donnait des bases. Puis après, à toi de faire, de perfectionner, lire, pratiquer. Donc là, du coup, j'ai pratiqué d'autres instruments. Et comme je suis très curieuse et de nature, un peu pour tout, mais alors au niveau musical, j'aime toucher à beaucoup de choses. Je touche à plein d'instruments sans les avoir pratiqués beaucoup, mais je me débrouille, quoi. Je me débrouille. Et ça, j'adore.
Ce que je trouve inspirant dans ton parcours, dans ce genre de parcours, ça me rappelle à la phrase de Satish Kumar qui disait « Aujourd'hui, le monde est en transformation. Arrêtez de chercher du travail. Créez votre propre réalité et créez votre propre travail à travers ce que vous êtes et ce que vous aimez faire. »
Ouais, et ça, moi, je le vois chez les... Maintenant, moi, j'ai 40 ans. Je vois chez des jeunes de 20-25 ans qui lâchent déjà leurs études académiques qui ont fait plaisir à papa et maman pour aller déjà créer leur boulot. Et je trouve ça génial, à cet âge-là, d'oser le faire. Donc ouais, effectivement, c'est très... moi, du coup, je suis partie là-dedans. Et puis après, je suis revenue avec ce bagage-là et j'ai commencé à chercher du travail. Je faisais déjà de l'éveil musical de manière empirique avec les enfants depuis plusieurs années. Et puis j'ai bossé, du coup, j'ai débarqué en psychiatrie adulte, chose que je n'étais pas du tout allée chercher. Moi, je voulais bosser avec les enfants à l'époque. J'avais 23 ans quand je suis sortie de cette formation. Et je voulais bosser avec les enfants, handicapés, etc. Puis j'ai pas trouvé. Et on est venu me chercher sur un projet en psychiatrie adulte. Et là, j'emmenais pas large. Psychiatrie adulte à 23 ans, je me sentais pas du tout. Et en fait, ça a été la rencontre, l'expérience professionnelle dans ce domaine-là qui m'a tout éclaté, quoi. Parce que j'avais des gens avec des étiquettes, hein, au niveau psychiatrique qu'on met, et très très différentes. Et ça a été hyper formateur, hyper formateur, hyper enrichissant humainement pour moi. J'ai fait 5 ans avec toute cette équipe et c'était énorme, énorme. Au niveau humain et au niveau de démystifier aussi plein de choses et puis d'ouvrir, faire éclater des cadres aussi dans ce domaine-là, ça a été fabuleux. C'était vraiment la marche, l'escalier qui m'a ouvert tout cet accès-là, quoi.
Thank you. émission Voyage. Là, on est en train d'échanger quelque part autour d'une table à Katmandou. On est au Népal, donc tu es aussi voyageuse. Est-ce que tu peux me parler de cet aspect-là de ta vie? À quel moment tu as commencé à t'intéresser à l'ailleurs, à voir ce qui se passait au-delà de nos frontières?
Alors, j'ai toujours eu envie de voyager. Et j'ai des parents, une maman qui aurait beaucoup aimé voyager et qui n'a pas pu, enfin qui ne s'est pas créé les conditions pour le faire. Et donc sur le plan familial, j'ai pas eu cette héritage-là entre guillemets, cet élan-là pour le faire. Mais je me disais que vraiment j'allais aller rencontrer vraiment d'autres peuples et puis et rencontrer le monde, quoi. Au-delà de... Je savais déjà à la base que je resterais pas là où j'étais née, que je voulais barouder, donc ce que j'ai fait un petit peu, pas loin. Mais... Et puis après, il y a eu la rencontre avec Marc, qui a été décisive sur ce plan-là, sur plein de plans, en fait, et qui nous a amenés à partager cet amour de l'humain et du voyage et de la musique, en fait. Ça conciliait tous nos centres d'intérêt communs, en fait. C'est ça qui a ouvert cette porte-là.
Et c'était quand, ça?
En 2007, ouais. Donc ça fait 11 ans maintenant qu'on partage cet enthousiasme, cet élan, cet amour, cette passion pour à la fois l'humain et la rencontre avec notre médiateur commun qui est la musique. Après, avec chacun nos spécificités, notre personnalité, mais c'est une des choses qui nous réunit fortement, très très fort.
Alors, je vais m'intéresser à cette manière de voyager en musique. Je crois que c'est un peu nouveau dans cette émission. Regarde d'ailleurs, c'est souvent des écrivains, des vidéastes, des réalisateurs. Mais là, c'est une dimension musicale dans le voyage que je trouve intéressante.
Ben ouais, moi je peux pas comparer avec d'autres dimensions écrivains ou autres qui me touchent, mais qui ne sont pas dans ma spécificité, on va dire. Ben en fait c'est un passeport, c'est une passerelle, quoi. C'est rien de plus que ça. Tout comme quand tu le fais en musicothérapie, ça reste un outil, un médiateur. Tu peux t'en passer. Et là, tu crées quelque chose, tu crées une rencontre qui, si de l'autre côté, il y a un élan musical déjà présent, bah, ça peut être très fort, ce qui se passe. Et sinon, ça peut être juste éveiller de la joie, de l'intérêt, de la curiosité et nous mettre sur un même plan par le biais d'un instrument. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'en dégager. Tu vois, de pas non plus, moi c'est mon sentiment, de pas non plus rester accroché à ça. Tu vois, c'est comme une porte d'entrée, puis après c'est bien aussi de le lâcher pour voir ce qui se passe dans cette mise à nu de relationnel.
Ce que je vois d'hyper intéressant dans ce langage musical, c'est qu'il est universel. Dans tous les peuples, toutes les cultures, tous les pays du monde, la musique existe sous différentes formes, avec différents instruments, mais là, tu viens avec un passeport universel.
Oui, c'est ça. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est tellement intrinsèque, en fait, que tu le poses, j'ai même pas pensé à le dire, mais effectivement, c'est au-delà des mots. Donc, du coup, tout est possible. On se retrouve, on se comprend par ce langage émotionnel. Les instruments, de toute façon, c'est comme les costumes. Tu retrouves des costumes dans telle culture qui s'apparentent à telle autre culture, dans certaines langues aussi. Et dans les instruments, c'est pareil. Tel instrument de telle famille, il te rappelle. Parce que ce n'est qu'une seule et même humanité, qu'une seule et même famille. Donc tout se rejoint. Donc tu peux toujours échanger et dialoguer par ce biais-là. C'est magnifique.
Donc si je reviens 11 ans en arrière, quand tu as commencé à prendre la route, à être en mode voyage avec instruments, c'était quoi le projet? C'était déjà cette caravane?
Oui, c'était déjà la caravane. Moi, j'ai mis le pied à l'étrier avec la caravane. Alors, la caravane, mais pas seulement, les tournées aussi que Marc avait commencé 20 ans en arrière avec le piano, parce qu'il n'y a pas toujours la caravane amoureuse dans les tournées musicales à l'étranger. Il y a aussi parfois des tournées qui se font... Sans tout un collectif, pour diverses raisons. Et donc le premier voyage, c'était pas une caravane, ensemble, c'était en Guinée-Conakry avec le piano. Et voilà, bah, c'était la découverte de l'Afrique noire que je connaissais pas du tout. Donc c'était le choc, l'émerveillement, c'est juste énorme, quoi. Quand tu débarques comme ça, avec en plus avec un piano, c'est un ovni qui arrive là, et puis tu crées du lien par ce biais-là. Moi, à l'époque, je prenais pas d'autres instruments encore. Et en plus, en couple, donc il y a la dimension du couple qui va à la rencontre de l'autre. Ça, à la fois, ça interpelle, ça fascine, parfois ça dérange aussi. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. En fait, tu peux pas te dire c'est quoi l'impact du piano, l'impact de notre relation de couple, l'impact. Tout ça, c'est un package, et on arrive avec tout ça, et ça crée des moments. C'est au-delà des mots, quoi. C'est difficile de mettre des mots parfois sur ce qui se passe. C'est vraiment palpable dans l'invisible, quoi, de la relation qui se tisse comme ça dans l'instant, grâce à la musique, ça, sans aucun doute.
Donc là, c'était en couple avec un piano, mais un piano à queue, hein.
Oui, le piano de Marc qui voyage depuis des années, plus de 30 ans maintenant. Donc il y a aussi, lui, son énergie, ce piano, cet instrument, parce que les instruments porte l'empreinte, hein, de ceux qui les jouent, et puis de tous ces partages, de toute cette humanité. Ce piano, il porte tout ça. Donc c'est très touchant aussi de cette disponibilité, de cette mise à disposition d'un instrument comme ça. Faut pas avoir peur quand tu fais ça. Tu donnes. C'est comme quand tu offres, je sais pas moi, ton carnet de bord à ceux que tu rencontres. Là, t'offres ton instrument et ils y vont, quoi. C'est vraiment dans la mise à disposition, dans le don, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est fort. Parce que là-dessus, je suis assez sensible à ça, parce que parfois, je rencontre des musiciens qui restent accrochés à leur instrument par peur que les autres le touchent, au niveau qu'ils prennent l'énergie, etc., etc. Et on n'est pas là dedans, quoi. Si on veut vraiment être dans la reliance à l'autre, tu lâches complètement ça, quoi. Et ton instrument, il se nourrit de la présence des autres, de l'énergie des autres. Il n'en est que plus, à l'image de ton cœur humain, il n'en est que plus grand, plus ouvert.
On va en parler un petit peu de ce piano et de cette caravane. On a cité le mot caravane, mais bon, là, l'auditeur ne sait pas encore ce qu'est la caravane amoureuse. Hein, donc tu dis un piano, tu parles 30 ans de voyage, caravane amoureuse. Remets ça un peu dans le contexte, explique-nous ce que c'est.
C'est le concept que Marc a créé en 2004. Donc de partir, comme il bougeait, il partait avec son piano à travers le monde. Il y avait toujours des gens qui souhaitaient venir avec lui. Quand il partageait ça lors des concerts, les gens disaient « j'aimerais être une petite souris, me cacher dans votre piano pour voir et vivre ce que vous vivez ». Et du coup, de fil en aiguille, ça lui est venu. Il s'est dit « pourquoi pas emmener des gens avec moi pour partager cette humanité, être dans cette joie, ce souffle, voilà, d'amour à travers la musique ou le piano ». C'est le sésame, on va dire. Et puis après, que chacun puisse donner de lui dans ce qu'il est, sa spécificité. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il a eu des bus, toute l'histoire avec la Citram Aquitaine. Il a eu des bus qui ont été transformés en camping-car géant, donc avec des couchettes, etc., cuisine et tout. Et puis c'est parti avec 3 bus pour aller à la rencontre des autres. Et la première, c'était Maroc... Enfin, en tout cas, c'était celle du Maroc en 2004. Et puis après, tous les 2 ans, il y en a une. Et puis c'est là, on en est à la... Je sais plus. Je sais plus, mais tous les 2 ans, il y a eu le Liban, il y a eu le Québec, il y en a eu plein partout. Et ça s'internationalise, en fait. Donc du coup, maintenant, on n'a plus les bus parce que c'est trop loin. Donc on loue des véhicules et puis... Donc on a plus ces fameux bus qui étaient vraiment identifiés caravane, c'était force à toute cette époque-là. Maintenant, c'est autre chose. On va plus loin, donc du coup, on adopte d'autres moyens, d'autres stratégies. Mais c'est toujours aussi beau, ça évolue avec le temps, c'est différent. Et chacun, ben, alors que ce soit un instrument de musique, ou bien un nez de clown, ou bien le dessin, ou bien l'écriture, chacun a son outil pour entrer en relation. Il y en a qui n'ont pas d'outil particulier, si ce n'est que leur sourire, l'ouverture de leur cœur pour aller à la rencontre de l'autre. Et puis chacun peut vivre cette aventure tous ensemble, collectivement, autour de ce piano qui est phare, quoi, dans cette aventure.
C'est la traversée de l'Himalaya qui est envisagée avec un piano à queue.
Oui, alors ça c'est effectivement le projet qui s'est établi depuis plus d'un an et où Inde n'est pas le Tibet, donc pas un petit projet. Enfin, c'est jamais des petits projets, mais c'est quand même conséquent là, pouvoir imaginer cette traversée de l'Himalaya avec le piano. Donc là on touche à la fin de l'aventure et c'était grandiose. C'était difficile aussi, parce que toujours dans la caravane, il y a beaucoup d'aléas, d'inconnus, et c'est normal, c'est le mouvement de la vie. Mais on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Et voilà, donc bah, le piano a pu voyager, et sur d'autres plans ne l'a pas pu. On a pu donner beaucoup malgré tout. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand même, c'est le groupe, parce que je trouve que c'est pas comme ça dans toutes les caravanes, le fait de réussir justement à faire sans le piano. Il y a des groupes qui, enfin, je veux pas généraliser, mais où cette attache à l'instrument et en même temps à la personne de marque est plus présente. Là, il y a eu beaucoup d'initiatives, il y avait aussi beaucoup de musiciens dans cette caravane, donc ça c'est vraiment chouette parce que du coup il y a des relais, ça rebondit, ça permet de donner de l'élan à ceux qui parfois ont besoin de sentir un peu plus cette force musicale pour oser aller à la rencontre de l'autre. Donc il y avait tous ces relais et on a vu que la caravane pouvait exister sans le piano, donc ça c'est génial. Enfin moi on n'en doutait pas, mais c'est bon de le voir, de le vivre et de... Tout ça sont des prétextes, en fait, hein. Rien de plus.
Donc il y a eu des caravanes individuelles, donc en couple, et d'autres qui ont été collectives, comme celles qu'on a vécues. Donc toi, tu as fait les deux.
Ouais, alors quand c'est individuel ou en couple, on n'utilise pas ce terme de caravane amoureuse. La caravane amoureuse, c'est vraiment le collectif. Sinon, bah, c'est une tournée, ça va être une tournée amoureuse, évidemment, dans le même esprit, bien entendu, mais où on n'est que à deux, ou une petite équipe... accompagné de... Le but aussi essentiel de la caravane amoureuse depuis la France, depuis 2008, c'est justement de filmer les initiatives positives au gré des rencontres, alors ou identifiées déjà dans l'itinéraire au départ, ou alors qui sont faites de manière spontanée dans l'itinéraire, et où on va pouvoir montrer bah, des forces vives, des gens qui œuvrent, et pouvoir montrer vraiment du positif, quoi, pour la planète, pour cette conscience, pour l'humain. Et ça, c'est super important, au-delà du groupe qui va à la rencontre de l'autre avec cœur. Pouvoir aller aussi plus loin et dénicher des personnes et dénicher des trésors, quoi.
Et parmi ces personnes inspirantes que tu as rencontrées sur la route, hein, depuis que tu t'es mis en mouvement sur les routes du monde, quelles sont les rencontres qui te restent, qui pour toi ont été inspirantes et que tu aimerais pouvoir partager ?
Alors ça, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup et que j'aime pas trop cibler comme ça, choisir. Parce que ça peut être vraiment tout autant une rencontre fugace avec une petite fille qui va m'avoir touché en plein cœur l'espace de 10 minutes. Comme ça peut être, là je vais être vraiment dans quelque chose d'assez proche dans le temps, comme ça peut être Ram à l'ashram qui m'a vraiment bluffé par son engagement et sa présence, son amour, vraiment... Ouais, un engagement d'homme de vie extraordinaire, une résilience, voilà, un homme qui a vraiment bâti et construit sur la base de ce qu'il n'a pas eu au départ. Et donc c'est difficile. Au Liban, il y a eu aussi des rencontres fortes. Je les vois, les gens, tu vois, j'ai eu des souvenirs visuels, mais je préfère rester sur la proximité là, dans le temps.
Voyageuse, artiste, musicienne, mais aussi maman. Et tu voyages aussi avec des enfants. Donc, comment tu vis ça, le voyage en famille avec des enfants qui ont 7 et 9 ans ?
Ouais. Bah, c'est une chance, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir vivre ça avec eux, pouvoir leur montrer cette humanité, leur montrer ces cultures, leur montrer les difficultés aussi de ce monde, parce que bah, eux, ils vivent dans un environnement quand même très privilégié. Donc là, ça les ouvre, ça éclate tout, quoi, hein, tout leur cadre, tout ce qu'ils peuvent. Ouais, ça leur montre vraiment aussi que bah, les trois quarts de l'humanité vivent dans une grande détresse. Et ça, c'est vraiment pour nous. Je vais vraiment dire pour nous, c'est vraiment important qu'à leur âge, ils peuvent commencer à mesurer vraiment tout ça, pour mieux mesurer aussi la chance qu'ils ont, mais aussi pour bâtir déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie d'offrir au monde, comment ils vont avoir envie de servir le monde. Et voilà, et ça se construit dès maintenant. Donc ça c'est très précieux. Et puis, tu disais toute cette richesse culturelle. Quoi, quand je m'émerveille et que je vois tout ce qu'ils voient, et que je regarde aussi parfois, je les regarde regarder, et je vois leurs yeux éclater, je me dis waouh, tout ce qui se prennent dans le cœur et dans les yeux, c'est magnifique, quoi. De revenir chargé de tout ça, de pouvoir le partager, pouvoir voir au-delà de leur petit monde, quoi. Hein, parce que bon, les documentaires c'est bien, mais le vivre en vrai, c'est une autre histoire, quoi. Et puis aller au-delà, se dépasser aussi, parce que sortir des habitudes. Sortir d'un confort, sortir des habitudes, intégrer aussi la vie de groupe, parce que il y a des tempéraments, notre fils sont très différents, il y a un âge qui est différent, mais il y a des tempéraments différents, donc ils vivent pas les choses pareilles et ça les pousse à grandir, voilà, indéniablement. Intégrer des règles de vie de groupe, là on vit les choses ensemble, il y a des règles culturelles, tout ça, ça se respecte, ça s'écoute, donc c'est une grande école de la vie, hein, je trouve, pouvoir partager ça ensemble.
Cathy, merci.
Merci beaucoup Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.